1630. Donc il est né en 1552 et mort en 1630, donc à l'âge de 78 ans, hein, c'est un record de longévité pour l'époque qui est celle des guerres de religion. Il était blessé plusieurs fois. Il a toujours échappé à ses blessures et il est mort comblé d'ans et comblé aussi de grâce, puisqu'à Genève, il a réussi à se refaire une situation. Il a été chargé de restaurer les bastions de la cité. Si vous allez à Genève, près de la cathédrale Saint-Pierre, vous avez un bastion Agrippa d'Aubigné, hein, qui a été, dont la légende dit que c'est lui qui l'a restauré. Hein. Donc il a émigré en 1620 à Genève. Donc il avait déjà à l'époque 68 ans, donc c'était plus un jeune homme, mais il a pris en charge donc les fortifications de la ville et il a veillé donc à leur réparation, hein, puisque Genève est à l'époque une ville menacée, hein, par le duc de Savoie. Hein, il y aura la journée de l'escalade un peu plus tard. Donc je reviens un peu à mon thème. Mon thème, c'est donc Agrippa d'Aubigné ou la résistance à l'édit de Nantes. Alors ce qu'on pense aujourd'hui, la doxa ou ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprenait à l'école en tout cas autrefois, c'est que l'édit de Nantes finalement avait instauré la paix religieuse, ce qui est vrai, hein, avait instauré aussi la tolérance en France, avait permis donc la coexistence de deux religions, la religion catholique qui était majoritaire évidemment, qui était la religion du roi, et une religion minoritaire qui était la religion réformée, ou prétendue réformée, comme disaient ses adversaires catholiques. Hein. Or, cet édit de Nantes, qui a été présenté longtemps comme un succès protestant, en fait, ce n'est pas un succès protestant, c'est plutôt un échec. En tout cas, pour les protestants qui, comme d'Aubigné, espéraient que le protestantisme serait la religion du royaume, ça a été un échec cuisant, puisque la religion réformée, certes, était tolérée, mais dans d'étroites limites. Hein, par exemple, on ne pouvait pas exercer le culte dans les grandes villes du royaume. À Paris, le culte protestant était interdit. Et il fallait que les protestants prennent le bateau, hein, remontent la Seine et un bout de la Marne, hein, jusqu'à Charenton, hein, pour aller écouter les prêches à Charenton, au temple de Charenton, qui était assez loin, hein, des murs de Paris à l'époque. Hein. C'était la même chose à Rouen, par exemple. Il fallait aller à Quevilly, hein, et le temple de Rouen était à Quevilly, très loin du centre-ville, très loin de la vieille ville. Donc, il y avait des limites géographiques très étroites, hein. Les protestants ne pouvaient pas faire de prosélytisme. L'édit de Nantes, donc, a restauré la paix civile, ce qui était évidemment très important, mais dès qu'il a été mis en application, on peut dire que les missions catholiques se sont mises en œuvre pour convertir, hein, les protestants. Et la paix religieuse, finalement, comme l'observe d'Aubigné, est une paix qui a profité plus aux catholiques qu'aux protestants. Et d'autant que la religion du roi, c'était la religion catholique. Hein. Henri IV, comme vous le savez, s'était converti au catholicisme. Donc, il y a eu, du côté protestant, des résistances à l'édit de Nantes. Il y en a eu du côté catholique, bien évidemment, hein, puisque certains catholiques, les catholiques zélés, auraient voulu la disparition du protestantisme. Mais du côté protestant également, il y a une résistance, parce que certains, comme d'Aubigné, avaient caressé le rêve d'une France protestante, ce qui était évidemment illusoire. Hein. À ce moment-là, hein, c'est pas parce que le roi Henri IV, quand il succède à son cousin Henri III, est protestant, c'est pas automatiquement, ça ne signifiait pas automatiquement que les sujets l'auraient suivi. Hein. Et quand Henri IV, gagner Paris, hein, c'est la phrase peut-être apocryphe, hein, Paris vaut bien une messe, quand il se convertit au catholicisme, à ce moment-là, c'est la fin des espoirs d'une France protestante. Hein, et ça, d'Aubigné ne l'a jamais pardonné à Henri IV, hein, il lui en a voulu pour ça. Et voici ce que dit Agrippa d'Aubigné: « La paix fut mieux reçue des peuples qu'on eût estimé, mais surtout pour l'opinion que les plus avisés tenaient qu'elle était avantageuse aux catholiques et ruineuse aux réformés, d'entre lesquels les plus relevés portaient durement les difficultés de parvenir aux charges du royaume. » Hein. Donc, restriction de la tolérance à l'égard des protestants, et puis le fait que les charges de l'État sont réservées aux catholiques. Bon, il y a des charges auxquelles les protestants ne pouvaient pas accéder, ou du moins, c'était contingenté. Donc, l'édit de Nantes a contenu, finalement, la religion protestante dans d'étroites limites, et a préparé, donc, la contre-réforme. Hein. Et le règne d'Henri IV montre des ralliements de plus en plus nombreux au catholicisme, des nobles en particulier, des grandes familles qui, pour avoir des charges, eh bien, se convertissaient. dès lors que la paix était rétablie, les gens se disaient, mais pourquoi se continuer à se battre? Et donc, il se ralliait à la religion majoritaire. Hein. C'est une leçon qui est assez cruelle, c'est que la minorité, si vous voulez, se maintient tant qu'elle est persécutée. Hein. Quand les persécutions cessent, tout d'un coup, elle perd en quelque sorte ses réflexes de défense, hein, et c'est là qu'elle perd. Hein. C'est à ce moment-là qu'elle perd du terrain. Voilà, et on peut dire que le salut, je veux dire une chose énorme qui va vous choquer, peut-être, c'est peut-être la révocation de l'édit de Nantes plus tard qui a redonné un sens au protestantisme, hein, voilà, qui a galvanisé, bon, qui l'a évidemment détruit sur le moment, mais qui lui a donné un avenir, une raison d'être. Hein, y a des historiens qui pensent un peu ainsi. D'Aubigné, donc, ne voyait pas si mal, en fait, hein, et des historiens, donc, de la fin du XXe siècle, hein, notamment Michel Grandjean, Bernard Roussel, note donc qu'on a considéré à tort l'édit de Nantes comme un bien propre de l'Église, de l'histoire réformée. Et cette tradition remonte loin. Jacques-Auguste de Thou, qui était un parlementaire, un catholique, mais un catholique ouvert aux protestants, qui a écrit une histoire universelle en latin, Jacques-Auguste de Thou parlait de l'édit des protestants. Et Charles Poisson, donc, évoquait quant à lui la charte des réformés français. Or, l'édit énoncé en son article 3, donc comme l'un de ses buts principaux, la volonté de faire que la religion catholique, apostolique et romaine soit remise et rétablie en tout lieu et endroit du royaume, y compris par conséquent dans les fiefs protestants. Hein. Là où les protestants avaient le pouvoir, le catholicisme avait été supprimé. Et l'édit de Nantes a imposé qu'on rouvre des églises, des cathédrales au culte catholique. Hein. C'est ce qui est le cas sans doute à Nîmes, dans la région languedocienne et également en Béarn. L'édit de Nantes, donc, accompagna la reconquête catholique de vastes régions du royaume. Loin de l'entraver, il favorisa l'essor de la contre-réforme partout en France. Hein. Et la minorité huguenote, interdite d'expansion territoriale et de fait, sinon de droit, de tout prosélytisme, entrait dans un long déclin. Alors, cette idée d'un édit de Nantes favorable aux protestants, en fait, effectivement, il a permis aux protestants de survivre, évidemment. Ils n'ont pas été exterminés, certes, mais ils ont été contenus, limités et petit à petit reniés, hein, dans leur existence. Par contraste, donc, si l'édit de Nantes a eu tant de succès, si on, aux yeux des historiens, si on l'a considéré comme favorable, c'est évidemment parce qu'il a été suivi de sa révocation, hein, 90 ans plus tard, en 1685. Hein, l'édit de Fontainebleau qui le révoquait, donc, a fait que, par contraste, l'édit de Nantes est apparu comme un événement béni, un répit provisoire dans l'histoire des persécutions. Grâce à l'ombre portée par la révocation de 1685, l'édit de 1598, l'édit de Nantes, fut annexé par la mémoire protestante, et de là, il entra dans les fastes de l'historiographie du XIXe siècle, hein, qui la considéra comme un jalon décisif dans la marche de la société d'Ancien Régime vers les Lumières, la liberté et le progrès. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de minimiser la portée de cet édit, qui est considérable, hein, dont son principe, comme vous le savez, ça a été de faire coexister tant bien que mal deux religions dans un même royaume, hein, ce qu'on pensait irréalisable et ce qui était même impensable auparavant. Solution presque inouïe à une époque où la conception d'une tolérance positive était presque impensable et où l'unité de l'État et donc de la paix civile ne pouvait être conçue sans l'unanimité des consciences. Et il y avait le fameux dogme, hein, qui était l'adage, hein, une foi, une loi, un roi. Une foi, une loi, un roi. Donc le roi n'était pas seulement, hein, il faut rappeler que le roi de France n'était pas seulement le chef politique du royaume, c'était aussi le chef religieux. Il était le chef de l'Église de France, hein, comme la reine d'Angleterre est chef de l'Église anglicane. Hein, c'était un peu le même principe. Hein, il avait des pouvoirs qui n'étaient pas seulement politiques, mais qui étaient aussi religieux, comme de nommer les évêques, par exemple. Et vous savez que la personne du roi était sacrée, hein, telle enseigne qu'on appelait le roi le Christ du Seigneur, hein, dans les textes canoniques, et qu'il accomplissait des miracles, hein, comme de guérir les écrouelles, hein, par simple toucher. Donc, je voudrais, à travers d'Aubigné, rappeler que l'édit de Nantes donc, a pu être ressenti comme un échec, hein, par ceux-là même qu'il aurait dû servir et protéger. Et alors, l'édit de Nantes sanctionne, en fait, aux yeux de d'Aubigné, hein, qui est sans doute un minoritaire parmi les protestants, mais qui représente quand même une partie de l'opinion protestante, il y a un double échec, ce que j'appelle l'échec majoritaire et ce que j'appelle aussi l'échec minoritaire. Alors l'échec majoritaire, c'est le plus simple à comprendre, hein, les protestants n'ont pas réussi à l'emporter quantitativement. Pardon, hein. Du point de vue quantitatif, il représente peu de choses, hein, peut-être 1 million au maximum de protestants à ce moment-là, et sans doute moins à la fin des guerres de religion, et ils n'ont pas réussi donc à attirer la masse des Français derrière eux. Donc, échec en termes de pouvoir, en termes de conquête de l'État aussi. L'Église réformée donc, n'est pas devenue l'Église du roi et n'est pas devenue Église d'État. Mais je parlerai aussi d'un échec minoritaire. J'appellerai échec minoritaire la perte de légitimité ressentie par la minorité combattant non seulement pour sa survie, mais aussi pour une vérité transcendante dont elle est la détentrice exclusive. Hein, en fonction du dogme calviniste de l'élection, les protestants, même battus, même affaiblis au lendemain de la Saint-Barthélemy, pouvaient considérer qu'ils continuaient d'incarner l'Église véritable du Christ. Hein, ils étaient affaiblis, minoritaires, mais ils avaient quand même le bon droit pour eux, hein, puisque dans l'histoire de l'Ancien Testament, le peuple hébreu est un peuple minoritaire, un petit peuple environné de peuples plus puissants, hein, comme les Égyptiens, les Assyriens, les Phéniciens, hein, qui les opprimaient, qui les combattaient, mais le peuple juif, donc, en dépit de ses voisins plus forts et toujours menaçants, a réussi à survivre grâce à l'Alliance, hein, grâce à la protection divine. Et il en allait un peu de même des protestants, même minoritaires, ils pouvaient penser qu'ils étaient les successeurs légitimes, finalement, du peuple élu de l'Ancienne Alliance. Or, y a doute à ce moment-là. Hein. Au terme des guerres de religion, chez quelqu'un comme Daubigné, y a un doute. Hein. Daubigné est quelqu'un, est un gentilhomme poitevin, un gentilhomme de fraîche date, hein, puisque ses grands-parents étaient sans doute des tanneurs. Hein. Bon, c'est une noblesse un petit peu usurpée. Mais Daubigné, donc, qui a été, qu'on présente souvent comme un enragé, hein, en quelque sorte, un protestant jusqu'au boutiste, il a lui-même été ébranlé par le doute, et il raconte, hein, dans un texte autobiographique tout à fait singulier qui s'appelle « Sa vie à ses enfants » qu'il était prêt à un moment donné de se convertir au catholicisme et même de se rendre jésuite, hein, ce qui est un peu extraordinaire. Daubigné donc va combattre cette paix qu'il appelle la fausse paix, la paix de religion qui est l'édit de Nantes, donc qui rend inapproprié des conduites acquises de résistance et de persévérance dans le malheur. Hein, puisque il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de guerre, hein, ces conduites acquises de résistance et de persévérance, finalement, ben, elles tombent et le parti huguenot reste désemparé, hein, en face de cette paix qui lui est offerte et qu'il a voulu peut-être, mais qu'il n'a pas voulu dans les conditions qu'on lui a données. Donc l'édit va avoir une action démobilisatrice, édit à la fois trop restreint et trop généreux, qui consacre en réalité la seule victoire de la puissance royale. Hein, l'édit de Nantes a fait beaucoup pour le renforcement, évidemment, de l'État monarchique. Il a fait surtout beaucoup pour la victoire et la restauration tout ensemble d'un principe monarchique malmené, hein, par les protestants aussi bien que par les catholiques zélés. En fait, l'édit de Nantes affirmait, hein, le primat, hein, du politique par rapport au religieux. Il pouvait y avoir un seul roi, un seul État, tout en tolérant deux religions, puisque, en quelque sorte, l'État, le politique et le religieux, qui étaient deux notions complètement confondues auparavant, apparaissent désormais distinctes. La politique, finalement, se place au-dessus de la religion, et l'intérêt de l'État passe avant celui de l'Église. Alors, l'échec majoritaire, donc, je vais traiter très rapidement avant de m'attarder sur l'échec minoritaire, est évidemment le plus évident, hein. Non seulement le protestantisme n'est pas devenu la religion d'État, mais il est très loin de constituer la force dominante dans la France de l'édit. Hein, il représente 5 à 6% de la population française. Alors, à plusieurs reprises, les protestants ont pu penser qu'ils allaient l'emporter. Hein. Alors, au début des guerres de religion, c'est le cas. Hein, en 1560, vous savez que les protestants à Amboise ont essayé de mettre la main sur le jeune roi François II, hein, qui a eu un règne éphémère d'un an. Et en l'enlevant, ils ont essayé de l'enlever pour le convertir à la réforme. Et à ce moment-là, si le roi était en leur pouvoir, ils espéraient que les sujets suivraient. Donc, première tentative. Cette tentative est renouvelée en mars 1560, donc cette tentative de mars 1560 est renouvelée en septembre 1567, donc 7 ans plus tard. Cette fois-ci, il s'agit plus de François II qui est mort à la fin de 1560, mais de Charles IX, son frère, le futur roi de la Saint-Barthélemy. Charles IX, donc, est l'objet d'une tentative d'enlèvement par le prince de Condé, pour la même histoire. Les protestants essayent de l'enlever pour le convertir et pour entraîner les sujets derrière lui. Et puis, calcul vain, qui va avoir des conséquences catastrophiques, parce que finalement, cet enlèvement manqué de Charles IX en 1567 va être l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes des massacres de la Saint-Barthélemy. Ce sera une sorte de vengeance, de réplique. Et puis le troisième grand espoir, beaucoup plus tardif, mais plus réel, c'est la mort d'Henri III, le dernier Valois, le dernier représentant de la dynastie des Valois, qui meurt sans descendance, donc assassiné par le moine Jacques Clément en août 1589. La date est facile à retenir, c'est 2 siècles avant la Révolution. En août 1589, donc le roi Henri III est assassiné par un moine au service donc du parti catholique zélé, lui-même au service de l'Espagne. Et à ce moment-là, Henri de Navarre, donc le cousin très éloigné au 23e degré d'Henri III, est appelé naturellement sur le trône. Sauf que il a tout le royaume contre lui. Il a la majorité catholique du royaume contre lui. Il a juste les amis du roi défunt. Henri III lui a passé symboliquement le pouvoir, mais il ne pourra obtenir la victoire qu'en se convertissant lui-même, donc le 25 juillet 1593, lors de la cérémonie solennelle d'abjuration. Et donc, entre 1589 et 1593, pendant ces 4 années, quelqu'un comme d'Aubigné, il n'était pas le seul, a cru réellement que la France, ayant enfin un roi protestant, pouvait devenir protestant. C'est un rêve fou, évidemment, après presque 35 années de guerre. Il est impossible que ce miracle se produise, parce que les protestants étaient accusés de tous les maux, d'avoir été les fomenteurs de la guerre par les catholiques. Il faut penser que les protestants portent, pour l'opinion catholique du pays, la responsabilité de la guerre, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. On pourra en revenir là-dessus après. Et donc, en 93, Henri IV, qui est un réaliste, qui fait de la réelle politique, finalement, sacrifie finalement le principe religieux au principe politique, se convertit, et à ce moment-là, la guerre est presque finie, pas tout à fait, mais les guerres civiles sont finies, ça va durer encore quelques années, mais il va acheter un à un la reddition des chefs catholiques. L'une des dernières villes à se rendre étant la ville de Nantes, en Bretagne. La Bretagne est très catholique, comme vous savez, aujourd'hui comme hier, mais plus hier qu'aujourd'hui encore. Et c'est pas par hasard si l'édit de Nantes est signé à Nantes. C'est l'une des dernières villes à se rendre. Et d'ailleurs, l'édit de Nantes ne va pas s'appliquer à Nantes. À Nantes, il n'y aura jamais de culte protestant. Il n'est pas toléré à Nantes. C'est un peu l'ironie de cet édit de Nantes qui ne s'applique pas à Nantes même. Et ça en montre déjà symboliquement les limites. D'Aubigné, donc, va tirer. Donc, pour D'Aubigné, l'édit de Nantes apparaît comme la conséquence, finalement, directe de l'abjuration du roi. 5 ans plus tôt, le 25 juillet 1593. Et d'Aubigné, qui ne mâche pas ses mots, parle d'une paction, d'une ruineuse servitude. Paction, c'est-à-dire un pacte d'une ruineuse servitude. Et d'Aubigné, à ce moment-là, va fustiger non pas les catholiques, mais les ennemis de d'Aubigné, ce ne sont pas vraiment les catholiques, c'est surtout les protestants qui entourent le roi et qui ont accepté ce qu'ils considèrent comme une trahison. Et parmi ces protestants, il y en a beaucoup qui se convertissent. L'un des plus célèbres, c'est Duperron. Duperron, qui est un protestant, qui naît protestant, et qui se convertit, et qui lui-même va convertir Henri IV. Et être à la fois un théologien, un des théologiens catholiques les plus brillants, et un grand poète également, un poète écrivant en français, en latin. Ensuite, il y a Sancy, qui a donné son nom à un fameux diamant conservé aujourd'hui dans la galerie d'Apollon au Louvre. Sancy, lui-même, qui est le trésorier, le conseiller d'Henri IV aux finances, se convertit, et d'Aubigné va lui écrire contre lui un pamphlet assez drôle qui s'appelle « La confession catholique du sieur de Sancy et déclaration des causes tant d'État que de religion qui l'ont mû à se mettre au giron de l'Église romaine ». Donc Sancy incarne un type, celui du converti par opportunité, l'opportuniste, traître à son parti, à son roi et à ses compagnons, tout simplement pour asseoir sa fortune familiale. Voilà. Face à Sancy, qui est la vénalité incarnée, selon d'Aubigné, lui-même, évidemment, Agrippa d'Aubigné, pose au pur à l'intransigeant. Il fait partie de ceux qu'on appelle les fermes. À l'intérieur du parti protestant, il y a les fermes, et puis ceux en face qui sont partisans d'accommodement avec les catholiques. Donc d'Aubigné est un ferme, à d'autres époques on aurait dit un enragé en quelque sorte, qui refuse toute concession à l'égard du catholicisme. Et d'Aubigné donc, un peu comme Victor Hugo plus tard, Victor Hugo répète étonnamment la posture de d'Aubigné face à Napoléon III. Hugo face à Napoléon III, c'est la posture de d'Aubigné face à Henri IV. D'Aubigné, donc, c'est le juste minoritaire qui défend l'honneur et bientôt l'existence même du parti contre la meute des courtisans et des corrompus. Mais c'est surtout celui qui ose défier le roi, devenu le plus ardent zélateur de la religion catholique et qui tente à négliger son rôle de protecteur des églises réformées. En effet, Henri IV, à ce moment-là, réunit deux fonctions qui sont difficilement conciliables. Il est à la fois le chef de l'église catholique, en tant que roi de France, comme l'étaient ses prédécesseurs, mais il est aussi, en même temps, le protecteur des réformés. Et il a réussi, pendant son court règne, vous savez que la paix d'Henri IV, ça va durer une dizaine d'années seulement, il fait la paix en 1598 avec l'Espagne et puis avec les protestants, et il est assassiné 12 ans plus tard. C'est un règne, finalement, relativement bref, un règne clé dans notre histoire, mais très bref, incomparablement bref, si on... comparativement à l'écho, à la gloire, au renom, à la mémoire qu'il a suscité par la suite. Entre d'Aubigné donc et Henri de Navarre, futur Henri IV, qui se connaissaient bien, qui ont fait la guerre ensemble, c'est une histoire d'amour déçu, un roman de l'amitié trahie, dans lequel des sentiments violents et contradictoires paraissent l'emporter sur les raisons de la bonne politique. Telle est l'image que d'Aubigné entend donner de son rôle de conseiller mal écouté. Alors, il grandit sans doute un peu son rôle en montrant qu'il a donné des conseils de fermeté à Henri IV que celui-ci n'a pas suivi, préférant écouter les sirènes catholiques. Donc d'Aubigné voit dans l'Édit de Nantes, je l'ai dit, la suite logique de l'abjuration de 1593, c'est la paix qui confirme et parachève la trahison du roi, effective depuis 5 années, la paction de ruineuse servitude destinée à enchaîner et affaiblir le parti de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Donc, d'Aubigné accuse le roi d'ingratitude, parce que c'est quand même grâce aux protestants qu'il est arrivé au pouvoir, mais une fois au pouvoir, il n'est pas resté fidèle à la cause. Dans sa vie à ses enfants, cette autobiographie dont j'ai parlé, où il trace de lui-même un portrait flatteur et érige sa conduite en modèle, d'Aubigné rappelle qu'il s'est battu pied à pied durant toutes ces années contre la politique royale, c'est-à-dire contre le roi lui-même. Et alors, le roi, c'est traditionnellement, pour les protestants, c'est la figure de David, le second roi d'Israël, mais qui a détrôné Saül, comme vous savez, qui a vaincu Goliath. Mais en fait, ce David est dégénéré en Saül loin d'Israël, qui a été dégradé, en quelque sorte, au bénéfice de David. Et d'Aubigné ne sera pas loin de penser que l'assassinat d'Henri IV en 1610 est en quelque sorte la conséquence divine. C'est le châtiment de Dieu sur lui pour avoir trahi sa cause. D'Aubigné pense en termes bibliques, évidemment. Alors, sa vie à ses enfants insiste sur les différents personnels qui opposent d'Aubigné au roi et sur l'animosité de ce dernier à son égard. Alors, il rappelle toutes sortes d'épisodes où d'Aubigné a été le seul à oser s'opposer à la volonté royale de réconciliation. La réplique que d'Aubigné oppose au président Philippe Dufresne-Canet, futur converti et déjà traître, est on ne peut plus révélatrice. Comme celui-ci, donc le président Philippe Dufresne-Canet, s'indigne de son insolence, de l'insolence de d'Aubigné, et jette « Est-ce ainsi qu'on traite le service du roi ?» Ce dernier répond, d'Aubigné répond donc « Qui êtes-vous qui nous voulez enseigner ce que c'est que du service du roi, lequel nous avons eu en main avant que vous fussiez écolier ? Espérez-vous parvenir pour faire choquer le service du roi et de Dieu l'un contre l'autre ?» En fait, pour d'Aubigné, le service du roi et le service de Dieu, c'est le même service. Le problème, c'est que le roi a trahi Dieu et qu'à ce moment-là, lui-même est déchiré entre ces deux obéissances. Va-t-il rester fidèle à Dieu, au Dieu d'Israël, au Dieu de l'Ancien Testament, ou bien suivre le service du roi. Et d'Aubigné se retire à ce moment-là, il cesse de faire la guerre. Quand Henri IV appelle les chevaliers français, les nobles français, à s'unir contre les Espagnols qui envahissent le territoire, donc en 97-98, d'Aubigné refuse. Il se retire sur ses terres, aux confins de la Vendée et du Poitou, dans la baie de Maizet, au milieu du marais Poitevin, et c'est là qu'il va retirer sur ses terres, écrire ses deux œuvres capitales, les Tragiques, ce poème des Tragiques, qui est un poème des guerres de religion, mais écrit lors de sa retraite en Poitou, essentiellement, et qui paraîtra à une date très tardive, en 1616, et c'est là aussi qu'il écrit l'Histoire universelle, qui est son œuvre la plus massive, la plus monumentale, qui raconte donc l'histoire de toute l'Europe, c'est ça que ça veut dire, universel. C'est une histoire géographiquement universelle, étendue aux limites du monde connu de l'époque. Il est même question un peu du Brésil et de l'Amérique. Histoire universelle qui va de la naissance d'Henri IV à sa mort, donc qui embrasse les 60 années, en gros, qu'a vécu Henri IV, un petit peu moins. Donc ce double lien de d'Aubigné avec Henri IV, ce rapport contradictoire d'amour, mais aussi de haine, c'est une sorte d'amitié déçue et qui se retourne en inimitié, en ressentiment, trouve son aboutissement dans les Tragiques, et dans l'éloge qui termine les Tragiques. Les Tragiques, donc, poème que l'on situe au XVIe siècle, mais qui est en fait un poème bien plus tardif, un poème du début du XVIIe siècle, qui est publié après la mort d'Henri IV, 6 ans après la mort d'Henri IV. Ce poème se termine par un éloge en prose du roi. Cet éloge est un éloge du chef de guerre, du capitaine qui, contre tout espoir, dans le langage de d'Aubigné, a relevé les enseignes d'Israël et conduit son peuple à la victoire. Certes, l'éloge du très auguste, très victorieux Henri IVe se conclut par le triomphe de la paix, mais l'éloge ici atteint une sorte de limite qu'il ne franchira pas. Tels sont les derniers mots de cette pièce oratoire, je cite, « comme ployant en un chapeau d'olive, c'est-à-dire un chapeau d'olivier, une couronne d'olivier, les cimes égarées de ses palmes et laurier a couronné d'un diadème bien composé son chef victorieux, sa tête victorieuse. » Donc sur sa tête, il a mis en fait un chapeau tressé de rameaux d'olivier, qui est le symbole de la paix, et de laurier, qui est le symbole de victoire. Des branches d'olivier tressées avec des branches de laurier. Mais d'Aubigné arrête l'éloge à la victoire. Donc Henri de Navarre, l'Henri IV qu'il aime, le roi qu'il aime, c'est un roi de guerre, c'est un chef de guerre, c'est un roi combattant, c'est le roi d'Israël qui combat ses ennemis philistins. Dès que le roi fait la paix, eh bien, ce n'est plus son roi, il ne se reconnaît plus dans le roi qui fait la paix et qui se convertit et qui trahit la cause. Alors ce poème en prose, cet éloge en prose qui conclut les Tragiques, donc, est destiné à rééquilibrer une image négative. En effet, quand on regarde les Tragiques dans le détail, on s'aperçoit que souvent d'Aubigné s'en prend à Henri. Alors, souvent les critiques ont dit que c'était Henri III. Mais en fait, beaucoup des critiques adressées au roi corrompu ou ingrat s'adressent non pas à Henri III, assassiné par Jacques Clément, mais à Henri IV, assassiné par Ravaillac. Il y a deux rois de France qui ont connu le même sort, qui ont été assassinés l'un après l'autre. Et en fait, le ressentiment de d'Aubigné s'adresse moins au dernier Valois qu'au premier Bourbon. De même, l'histoire universelle qui commence à la naissance d'Henri de Navarre s'interrompt après l'achèvement de l'œuvre du pacificateur au grand repos de la France quand Henri le Grand s'est vu paisible roi. Donc dans sa première version, l'histoire universelle s'arrête donc en 1498. Et puis ensuite, d'Aubigné va écrire la suite jusqu'à la mort du roi. Donc c'est l'assassinat du roi qui est en quelque sorte réconcilié, si l'on veut, d'Aubigné avec celui-ci, et en même temps avec lui-même. Le problème, c'est que d'Aubigné, malgré la véhémence de ses discours, de son poème, et malgré l'histoire universelle, n'arrive pas à entraîner ses coreligionnaires dans le combat. Et les guerres de religion, vous le savez peut-être, ont repris, enfin vous le savez ici à Alès évidemment, ont repris après la mort d'Henri IV, et ça va aboutir à la désastreuse paix d'Alès, évidemment, la paix de grâce d'Alès, signée en 1629, si ma mémoire est bonne, qui entraîne la disparition du parti huguenot. Les protestants seront tolérés, mais ils n'auront plus de force militaire ni de citadelle. En attendant, donc, d'Aubigné va signer son poème des tragiques de 1616 de l'acronyme LBDD. Le poème n'est pas signé de son nom, il est signé L.B.D.D. Qu'est-ce que ça veut dire, LBDD ? C'est le bouc du désert. Le bouc du désert. Voilà. Enfin, je cite, « Toutes les aigreurs et duretés de l'Assemblée de Châtellerault, qui est un synode, lui furent imputées, et pour cela fut appelé le bouc du désert, pour ce que tous déchargeaient leur haine sur lui. » D'Aubigné, c'est le bouc émissaire. Il joue le rôle du bouc émissaire, et il assume ce rôle de bouc émissaire, seul contre tous. On pourrait déjà lui appliquer le vers que Victor Hugo s'appliquera à lui-même, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est vraiment sa posture. Il est le seul, le dernier des derniers, à résister à la réconciliation générale, mais une réconciliation qu'il considère comme une trahison. Reste donc, j'en arrive à mon deuxième point, l'échec minoritaire. Il reste donc cette posture que Daubigné choisit, avec un certain orgueil, avec une certaine fierté, la posture du retranchement absolu dans l'échec annoncé et préparé de toute négociation. Dès lors que la vérité ne peut plus être imposée à la face du monde, il faut qu'après avoir accouché, selon une image de l'Apocalypse, la vérité, donc, une fois, après avoir accouché, donc, elle fuit au désert comme la femme de l'Apocalypse, qu'on interprète parfois comme l'Église. L'Église fuit au désert pourchassée et enceinte. En homme des extrêmes, Daubigné ne peut se résoudre à la demi-mesure de l'édit de Nantes. C'est que la vérité n'admet pas de solution négociée, c'est que le service de Dieu ne tolère pas de compromis. De la revendication majoritaire, échec majoritaire, Daubigné se précipite alors dans l'attitude minoritaire et la plus minoritaire qui soit, comme le Hugo des Châtiments. Il est celui, la seule qui reste et qui s'insurge et qui s'oppose. Car le statut de minorité que revendique Daubigné n'est pas celui que l'édit de Nantes reconnaît bien volontiers à ce qu'il appelle la religion prétendue réformée. C'est celui d'un minoritaire à l'intérieur de la minorité. Sa position ne saurait être définie par les articles d'un traité. Sa place n'est pas le résultat d'une négociation. Daubigné refuse en réalité toute concession que pourrait lui accorder l'adversaire. Le combat minoritaire qu'il entend poursuivre envers et contre tous, fût-ce en s'opposant à ses propres amis, est un combat voué de toute manière à l'échec. C'est une posture de refus qui marie à l'héritage des prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, les grands satiriques latins comme Horace, Juvénal, Martial, et tout cela donc dans cette culture de la résistance qui fut pendant des décennies celle de la réforme française. Cette culture minoritaire puise sa légitimité première dans l'histoire du peuple juif, par une mémoire religieuse obstinément conservée, en dépit des persécutions et des exils. Le peuple de l'Ancien Testament fournissait non seulement un grand modèle aux protestants du XVIe siècle, et puis ensuite à ceux du XVIIIe, au moment des assemblées du désert, mais de plus, en raison de la conception calvinienne de l'identité de deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance étant qu'une, il leur traçait la voie et leur ouvrait l'avenir. Un autre argument théologique en faveur de la minorité, qui rejoint une fois encore l'histoire du peuple juif, c'est celui si présent dans la théologie de Calvin et si souvent souligné de la double prédestination. Beaucoup d'appelés et peu d'élus au banquet des noces de l'époux. Francis Higman a rappelé comment cette doctrine de la double prédestination découlait directement du principe d'identité des deux alliances. Si on accepte l'idée vétérotestamentaire du peuple élu, et si les alliances sont essentiellement identiques, il n'y a rien de choquant dans l'idée d'un nouveau peuple élu. Dieu est immuable, Dieu ne change pas, ni dans le rejet du reste de l'humanité. Donc le fait que les protestants soient très minoritaires, ça peut justement illustrer le fait que les élus, ceux qui sont sauvés, sont de toute manière une minorité, et ça depuis l'Ancien Testament. Cette conception de l'élection minoritaire s'autorise de toute l'histoire du peuple hébreu, l'histoire d'Abraham, de Lot, mais déjà l'histoire de Noé et de sa famille, et plus tard de la vie de David, jeune berger affrontant le géant Goliath, puis roi errant, fuyant la colère de Saül, et enfin vieillard pourchassé par son propre fils Absalom. Mais la préfiguration la plus exacte de cette élection minoritaire est l'épisode de Gédéon combattant les Madianites et ne sélectionnant pour combattre une armée très supérieure en nombre que 300 guerriers triés sur le volet conformément à l'ordre reçu de l'Éternel. Entreprenant les tragiques au moment du reflux protestant, d'Aubigné donc se sert de ce précédent pour encourager ses coreligionnaires à la résistance. Et c'est donc, je vais vous lire un passage des tragiques, où d'Aubigné reprend cette histoire de Gédéon et se l'applique à lui-même en quelque sorte. D'Aubigné est convaincu d'être arrivé au seuil des derniers temps. La fin du monde, c'est une croyance qui traverse les siècles, c'est une hantise qui est aussi un peu celle de notre époque, mais qui est très présente, il faut le rappeler, à la fin du XVIe siècle. Car le triomphe de l'Antéchrist est annoncé en toutes lettres dans les tragiques pour 1666. Le chiffre, le millésime de la première édition, c'est-à-dire un demi-siècle exactement après la publication des tragiques. Donc 1036. 1036, c'est le chiffre de la bête dans l'Apocalypse. Et il y a des prophéties imprimées en Angleterre et en France qui annoncent que le monde va prendre fin en 1666. Et donc il faut se dépêcher, évidemment, de faire son salut avant que l'irréparable n'advienne. Puisque l'Église est entrée dans son automne et presque dans son hiver, alors, pour d'Aubigné, l'histoire de l'Église protestante suit un parcours saisonnier. Il y a eu d'abord le printemps et l'été de l'Église. Le printemps et l'été de l'Église, pour d'Aubigné, ça correspond à l'époque des martyrs, à l'époque qui précède les guerres de religion, pendant laquelle, donc sous le règne de François Ier et sous le règne d'Henri II, période pendant laquelle les protestants ne prenaient pas les armes, mais se laissaient mourir sur les bûchers. C'est la période des bûchers, ce qu'il appelle la période des feux. Et à cette période des feux, qui correspond au printemps et à l'été de l'Église, succède la période des fers, qui est la période des guerres de religion proprement dite, où les protestants prennent les armes, mais dès lors qu'ils prennent les armes, la netteté de leur message et la justice ou la justesse de leur combat perd de sa transparence. Donc, l'histoire du protestantisme, qui est une histoire très courte, évidemment, à l'époque, c'est une histoire d'un siècle, est une histoire déjà totale, qui passe d'une aurore à un déclin, en passant par un apogée, l'apogée étant situé donc vers les années 1560, au début des années 1560, au moment donc où le protestantisme a failli triompher en France, où il y a peut-être à ce moment-là 2 millions de réformés en France. Puisque l'Église est entrée désormais dans son automne et presque dans son hiver, il faut ranimer d'urgence les dernières énergies. Le poète donc sera le nouveau Gédéon, qui stigmatise les renégats, blâme les prudents, d'Aubigné est infirme, mais en face sont les prudents, et exalte par contre-coup les fermes, d'autant plus justifiés qu'ils sont plus minoritaires. Et je cite, « Sortez 300 choisis, et de cœur non esclaves, sans compter Israël, la paix en hâte l'eau, et Madian, les Madianites, sera défait par son couteau. » À l'exemple de Gédéon se conjugue la leçon de la parabole du semeur, dans l'évangile de Matthieu 13:7, Dieu sarcle les épines qui étouffent le grain semé parmi elles et qui dès lors pourra d'autant mieux croître et prospérer. Dans l'amenuisement des forces protestantes, d'Aubigné voit donc un signe de la providence. La parabole évangélique se prolonge dans l'image de l'arbre qu'on élague pour qu'il porte du fruit. Je cite encore, du fertile champ d'honneur, Dieu cercle ses épines ou sarcle ses épines pour en faire sucer l'humeur à vos racines. Si même de vos troncs vous voyez assécher les rameaux, vos germains, c'est qu'ils saoulaient cachés et vos fleurs et vos fruits, et vos branches plus vertes, qui plus rempliront l'air, étant plus découvertes. La comparaison d'inspiration évangélique de l'imprimeur Robert Estienne, telle qu'elle figure par exemple au frontispice de son Trésor de la langue grecque, montre cette image d'un arbre dont on coupe les branches pour que celle qui subsiste soit plus forte et donne plus de fruits. La folle espérance de d'Aubigné tient au fait qu'il croit en l'imminence de la fin des temps et donc au peu d'espace qui lui reste. S'il prophétise en termes apocalyptiques le succès du combat minoritaire, c'est que ce combat est vraiment le dernier. Dès lors que l'histoire s'achève, qu'elle échappe à l'initiative des hommes et qu'elle est tout entière prise en charge par un Dieu agissant à travers ses champions et ses anges, pourquoi désespérer ? Les justes sont sûrs de vaincre. La paraphrase poétique des psaumes 63 et 68, le psaume des batailles, permet au poète d'atteindre à l'exaltation héroïque d'un chant de victoire. Je cite encore, « Ils auront tout d'un temps à la bouche leur chant et porteront au poing un glaive à deux tranchants pour fouler à leurs pieds, pour détruire et défaire des ennemis de Dieu, la canaille adversaire. Voire pour empoigner et mener prisonniers les empereurs, les rois et princes les plus fiers, les mettre au cep, au fer, punir leur arrogance par les effets sanglants d'une juste vengeance. » Mais ce combat du dernier jour, ce combat du dernier des justes, était-il soutenable éternellement ? En fait, ce combat minoritaire rejoignait les origines conquérantes de la Réforme. Pour Daubigné, l'histoire récente, donc l'histoire du début du XVIIe siècle, comme du reste l'histoire universelle jusqu'à la résolution des derniers jours, obéit à une sorte de circularité, à une loi de l'éternel retour. La minorité de Louis XIII, après la mort d'Henri IV, ramène les temps incertains de celle de François II et de Charles IX. L'histoire se répète 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard. C'est comme si le siècle tournait en rond. 50 ans après Catherine de Médicis, une autre Médicis exerce la régence, Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV, mère de Louis XIII, qui est elle aussi florentine, une italienne, une catholique bien évidemment. En cette époque de contre-réforme triomphante, le parti protestant paraît à nouveau menacé dans son existence, et il l'est véritablement. Et c'est pourquoi Daubigné en appelle au martyr. Pour lui, le martyr, c'est le triomphe, c'est le triomphe de l'Église. Et c'est l'époque qui est aux origines de la Réforme. La Réforme commence par des martyrs, et l'expansion de la Réforme en France et dans l'Europe entière a été marqué par des dizaines, par des centaines de martyrs. Daubigné, on revient toujours au printemps, ce qu'il appelle le printemps de l'Église, c'est-à-dire à la saison des feux, c'est-à-dire la phase ascendante de la Réforme en France, dans la période qui précède immédiatement les guerres de religion. En face des martyrs qui s'offrent à la mort, spontanément, d'abord un par un, puis par dizaines, il y a la stratégie spectaculaire déployée par le pouvoir royal qui va servir directement la cause qu'il prétendait combattre. C'est ce que David Elkins a appelé la politique des bûchers du roi. On a brûlé massivement des hérétiques, comme on disait à l'époque, pour provoquer la peur, la terreur, et faire rentrer les protestants sous l'autorité de l'Église catholique, de l'Église traditionnelle. En fait, cette politique des bûchers du roi a échoué. Il faut savoir, c'est une chose qui est très peu connue en France, que c'est sous la fin du règne de François Ier, donc dans les années 1540, et au début du règne d'Henri II, dans les années 1550, qu'il y a eu la répression la plus spectaculaire des nouvelles idées religieuses. Et cette répression a pris la forme de véritables autodafés. En France, vous savez, il n'y a pas eu d'autodafés pratiquement, sauf à Montségur, bon, à l'époque des cathares, mais à l'époque moderne, il n'y a pas eu d'autodafés, à la différence de l'Espagne, ou de l'Italie, ou du Portugal, sauf à un moment précis, pendant ces 10 ou 20 années qui correspondent à la fin du règne de François Ier et au début du règne d'Henri II. François Ier, on pense toujours au roi humaniste, à celui qui a construit les châteaux de la Loire, qui a veillé l'agonie de Léonard de Vinci. En fait, c'était un roi extrêmement intolérant qui a réagi de la manière la plus violente et la plus spectaculaire contre les protestants. Et il a organisé des autodafés, comme il y en a eu un mot, par exemple, près de Paris, autodafés dans lesquels on brûlait d'un coup 20 ou 30 hérétiques, après les avoir évidemment questionnés, torturés. Tout à fait à la manière espagnole, avec des processions, des chants, etc. Et puis ça a été un échec, parce que, à la différence de l'Espagne, où ces autodafés finalement rétablissaient l'ordre, en France, ça a suscité des vocations. Les spectateurs de ces supplices ont admiré, c'est souvent comme ça en France, on aime bien prendre le parti du condamné, ou de celui qui est opprimé, de celui qui s'oppose au pouvoir. C'est un réflexe français, je trouve, à toutes les époques, aujourd'hui comme hier. y a une sympathie spontanée pour celui sur lequel s'abat la puissance de l'État, hein, quel qu'il soit. Donc les bûchers du roi vont avoir des résultats extrêmement décevants et vont être même contre-productifs. Le feu, d'autre part, le feu qui était le supplice qu'on réservait aux crimes contre la religion, le feu était un symbole parfaitement ambivalent. Pour, bien sûr, les juges qui condamnaient au feu, le feu, c'était l'annonce du feu de l'enfer. De leur vivant, on condamnait ces gens à brûler vifs, en châtiment annonciateur des châtiments éternels de l'enfer. Mais pour les martyrs et leurs adhérents, ils représentaient non pas le comble de l'abomination, mais au contraire un rappel de la Pentecôte et une promesse de rédemption. Ce n'était pas là un châtiment infernal, mais une sorte de catharsis véritable, vérifiable à l'œil nu, au cours de laquelle on voyait visiblement l'âme des martyrs se détacher des liens du corps pour remonter au ciel avec la fumée du brasier. C'est ce que développe d'Aubigné dans le chant central des tragiques, le chant qui occupe le milieu des tragiques. C'est un poème donc en 7 livres. Et le livre central, le livre 4, c'est le livre des feux, précisément. Ça s'appelle Les Feux. Et ça décrit donc cette espèce de transmutation du corps du martyr en une cette espèce de libération de l'âme du martyr qui brûle à petit feu, libération de son âme qui monte au ciel avec pour témoin une assemblée nombreuse. Le bûcher, donc, offre de surcroît une tribune idéale pour exposer les motifs de la réforme. Souvent, les martyrs saisissaient l'instant suprême pour délivrer devant un auditoire attentif un exposé dogmatique succinct, d'autant plus convaincant qu'il était prononcé à l'article de la mort. Donc on voit des martyrs qui commencent à prêcher sur leur bûcher, ils sont déjà attachés, le feu commence à leur brûler les pieds et le corps, et ils disent des versets de la Bible, des versets de la Passion du Christ, et de ce fait, ils convainquent beaucoup de gens. Et alors très vite, on a bâillonné les suppliciés pour les empêcher de parler au moment du supplice, et voire, on leur coupait la langue pour les empêcher de prêcher au moment de mourir. De sorte que, avec le recul des guerres de religion, la période des feux, qui désignait le temps des persécutions avant le début de la guerre, avant le début des guerres civiles, en vint à apparaître comme un moment privilégié de l'histoire de la Réforme. Certes, ce fut un temps d'épreuves atroces, mais d'épreuves victorieuses. La saison des feux, radieuse à la manière d'une aurore tragique, déclinait ensuite vers une saison pire, comme dit d'Aubigné, l'obscure saison des fers, quand dans la tourmente des batailles et des massacres, le sens de l'histoire se perdit et que la vérité du témoignage, au lieu de briller sur la place publique, aux yeux du plus grand nombre, fut étouffée dans les cachots. C'est ce qui se passe avec la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, c'est l'antithèse de la Saint-Barthélemy. Ça se passe une nuit, c'est un massacre qui commence en pleine nuit, à minuit, et où périssent donc des gens dont on ne sait pas d'ailleurs si ce sont toujours des fidèles protestants. Et parmi eux, il y a des martyrs, sans doute, de la cause, mais il y a des catholiques. C'est le brouillage complet. Les martyrs, avec les guerres et avec les massacres, étaient remplacés par les soldats et les victimes persécutées. Les guerres succédaient aux exécutions collectives. Jamais les morts n'avaient été aussi nombreux, effectivement, mais l'histoire perdait désormais de sa lisibilité. La nuit tombait sur la France où les bûchers presque éteints faisaient place à la désolation des charniers. Telle que la retrace Agrippa d'Aubigné dans les tragiques et dans son histoire universelle, cette histoire de la Réforme française est exemplaire à plus d'un titre. C'est lorsque le combat est le plus minoritaire et que le déséquilibre est le plus flagrant entre l'oppresseur et l'opprimé que le parti huguenot paraît le mieux justifié au regard de la foi, le plus habilité à soutenir un combat qui peut sembler désespéré aux esprits raisonnables, comme Montaigne, par exemple, qui condamne toute forme de martyr, ou plus tard comme Voltaire, qui condamne les camisards, comme vous savez. Alors évidemment, il plaint les protestants, mais il condamne le caractère fanatique des camisards, dans un texte que vous connaissez sans doute. Des trois périodes successives qui s'étendent des origines de la Réforme à la mort d'Henri IV en 1610, la pire est sans conteste celle des fers, qui correspond aux guerres de religion proprement dites, quand la minorité eut un instant l'espoir de devenir majoritaire et de gagner la guerre. Alors le parti protestant pensa l'emporter par les armes en enlevant le roi et en le convertissant par la force, comme cela fut tenté à deux reprises. tels que Condé et Coligny la menèrent tour à tour. Alors, selon d'Aubigné, le parti des justes perdit sa raison d'être, alors il mérita d'être puni, et il le fut de la manière la plus terrible lors du massacre de la Saint-Barthélemy. La défaite et l'écrasement lui rendirent un moment sa justification perdue dans l'épreuve de la souffrance. La minorité redevenait plus que jamais la minorité, amoindrie, mais sûre de son identité militante. Alors c'est un peu le rêve que ranime paradoxalement la mort d'Henri IV sous le couteau de Ravaillac. L'assassinat du roi abjurateur fait soudain tomber les masques et dessille les yeux. Deuil irréparable sans doute, mais en même temps confirmation de l'échec programmé de l'édit de Nantes. Dans le retour des malheurs, dans le retour de la discorde civile et bientôt de la guerre, on peut se demander si d'Aubigné n'exulte pas secrètement. Ses prédictions de Cassandre se trouvent vérifiées, ses apophéties, c'est-à-dire des prophéties faites après coup, confirmées. La paix traîtresse a affaibli le parti protestant. D'Aubigné saisit l'occasion pour reprendre le combat, d'abord par la plume, puis par l'épée. Les tragiques paraissent en 1616, l'histoire universelle en 1618-1619, et juste l'année d'après, en 1620, d'Aubigné reprend les armes pour combattre les armées catholiques. Parvenu à ce dernier tournant de sa vie, d'Aubigné compose un texte absolument extraordinaire par lequel je voudrais conclure. Il s'agit d'un traité resté manuscrit, publié au XIXe siècle seulement, qui s'intitule « Du devoir mutuel des rois et des sujets ». Alors, le devoir mutuel des rois et des sujets s'inspire d'une conception contractuelle du pouvoir. D'Aubigné, certes, n'est pas un adversaire de la monarchie, mais il considère que la bonne monarchie, c'est celle qui repose sur un pacte entre les sujets et le roi. Donc, ce qui entraîne des devoirs réciproques entre le roi et ses sujets. Le roi n'a pas le droit de massacrer ses sujets. Les sujets doivent l'obéissance au roi à condition que le roi respecte la vie de ses sujets et respecte un certain nombre de devoirs à leur égard. D'Aubigné donc définit dans ce traité un modèle de monarchie tempérée où l'autorité royale est étroitement limitée par les corps et les assemblées. Mais il évoque aussi, à la fin de ce même traité, en un élan lyrique inattendu à cet endroit, la perspective de sa propre mort sur le bûcher. Et la fin de ce devoir mutuel des rois et des sujets rejoint l'apothéose du livre 7 des Tragiques, quand l'âme, libérée des liens du corps par le feu qui consume et exalte, rejoint son principe et s'abîme extatique au giron de son Dieu. Vous savez, le dernier vers des Tragiques, vous le connaissez, c'est une espèce d'extase finale. Je lis les deux derniers vers. Les trois derniers vers, les quatre derniers même. Mes sens n'ont plus de sens, l'esprit de moi s'envole, le cœur ravi se tait, ma bouche est sans parole. Tout meurt, l'âme s'enfuit, et reprenant son lieu, extatique se pâme au giron de son Dieu. Et le mot Dieu est le dernier mot du poème. Et ici, on a le même mouvement d'élévation et d'anéantissement mystique dans ce morceau de prose tout à fait étonnant. Sons des échafauds, sons des bûchers, premiers échelons, premières élévations pour quitter la terre. Donc le bûcher est une sorte de... C'est la première marche d'un escalier qui conduit vers le ciel. C'est la première marche de l'échelle de Jacob qui conduit vers le ciel. Disons, nous sommes membres de Christ puisqu'il parfait ses souffrances en ses membres et qu'il veut les continuer en nous. Sois le ciel et le monde spectateurs du sang que nous épandons. Et s'il faut périr par les flammes, nous jetons nos vues au chemin qu'elles prennent. Les flammes montent vers le ciel, et de même, le regard des martyrs monte vers le ciel avec les flammes qui les entourent. Elles iront devant, et nous après, et avec elles, de l'air dans les nues. Et en perçant le ciel, nous volerons où sont déjà nos désirs arrivés, à savoir au trône de l'Éternel, pour là prendre place, régner et triompher avec les anges bienheureux. Vous voyez cette vision mystique du martyr sur le bûcher comme premier échelon d'une échelle qui conduit jusqu'à Dieu. Alors c'est vrai que la rêverie, donc telle qu'elle est exprimée dans ce texte qui date des années 1620-1621, donc très tardif, est devenue anachronique. Hein. On ne brûle plus que très rarement dans la France de cette époque-là. Il y a d'autres supplices, hein. Mais le temps des feux est bien terminé. Hein. Fort avant, dans le siècle de Louis XIII, d'Aubigné se réjouit de l'ardeur ancienne qui couve encore et de ses braises prêtes à reprendre pour une flambée tardive de témoignages. Du retour sporadique des cruautés, par exemple de celles qui se déroulent en Valteline au début des années 1620, il tire une sorte de consolation tragique. Ainsi, dans un autre traité, le traité sur les guerres civiles de 1622, où le scandale d'un nouveau massacre des innocents est contrebalancé par la constance des martyrs. Car, encore en ces actes derniers, vous trouvez les premières marques de l'Église en son enfance, soit à voir les mêmes barbaries qu'on disait être éteintes, soit à faire mourir en s'éjouissant, soit à redonner la mort avec soin à ceux que les accidents voulaient tirer des mains des bourreaux, soit à mutiler les corps à diverses fois et à voir les proches exécuter les proches parents, sur quoi les exécuteurs ont crié que le temps de grâce n'était plus, soit aussi d'autre côté à voir les pères et les enfants, avec mutuels encouragements, se tenir bonne compagnie à la mort, une mère sollicitée de sauver la vie à l'enfant qu'elle allaitait, en faire présent aux assassins, et puis ouvrir son sein aux poignards et haches qui la déchirèrent en mille pièces, instruite à fermeté par les leçons d'un sien frère, lequel, se voyant lié par les tueurs, s'écria « Si ne sauriez-vous lier la vérité ?» Là, on a encore vu des martyrs essayés par des morts lentes, quelqu'un mis entre deux morceaux de bois assez éloignés pour qu'il puisse choisir la vie, s'il voulait, entre ces deux embrassements. C'est un crépuscule qui ressemble à une aurore aussi sanglante que celle qui accoucha du christianisme 16 siècles auparavant. En ce déclin qui ramène l'Église en son enfance, comme dit d'Aubigné, l'énergie manifestée par les témoins de l'Évangile est aiguillonnée par celle des bourreaux. À preuve encore, le martyr du marchand piémontais, Sebastiano Bazzano, supplicié par le feu à Turin le 23 novembre 1623, et qui rend son âme à Dieu parmi le chant d'un psaume. Si l'on en croit un dossier compilé par d'Aubigné et retrouvé dans ses papiers, plusieurs témoins assurent que cet homme, donc ce marchand piémontais, était vrai martyr. Et je termine par une dernière citation. C'est mordre un fer bouillant que s'en prendre à Jean, qui, brûlant de zèle, répute à grand honneur d'être martyrisé pour leurs créances. Averti un des nombreux projets de libelles de cette époque, aussi indécise qu'exaltée. Le ton pressant du poète des tragiques est à la mesure d'une inquiétude, mais aussi d'une espérance qui mise sur la catastrophe imminente et chaque jour plus prévisible. L'inquiétude a trait au monde d'ici-bas, c'est moins celle d'un homme que d'une communauté qui peut craindre encore d'être anéantie. L'espérance, quant à elle, se rapporte à un au-delà sur lequel les compromis et les traités n'ont plus de prise.
Dans l'espace.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, ce n'est pas l'avis de Daubigné. Hein. Daubigné est contre ces limitations. Oui, ça, c'est l'application d'un principe qui avait été appliqué en Allemagne. Hein, c'est eius religio, cuius regio, eius religio. Hein. Ce principe latin. Hein, oui, c'est la religion de fief. Quoi. Donc, le seigneur, si le seigneur est protestant, ben, les gens de son fief sont protestants, du coup, et le culte de fief est permis, hein, bien sûr. Et ça explique qu'à la Roche-Bernard en Bretagne, par exemple, hein, la Bretagne est toute catholique, sauf la Roche-Bernard, qui est donc en Loire-Atlantique aujourd'hui, je crois. Hein, et il y avait un temple là, parce que c'était un fief de Coligny, hein, de la famille Coligny. Hein, voilà. Oui, oui, c'est la fin, oui. Alors, je vais revenir un peu sur la première question. Vous parliez de ces limitations géographiques. Enfin, c'est aussi le fait qu'il faut se rappeler que la France n'est pas l'unification, bien sûr, la France est unie, mais il y a effectivement ces privilèges, il y a ces divisions, il y a ces pouvoirs locaux qui subsistent encore, mais qui, effectivement, connaissent une défaite à ce moment-là. Parce qu'au cours des guerres de religion, il y a des tentatives qu'on peut qualifier de fédératives. Hein, les protestants, à certains moments, ont essayé de s'émanciper de la tutelle royale. Hein, et le royaume a failli éclater. Et pendant certaines périodes des guerres de religion, on peut dire que le royaume est en morceaux, littéralement. Donc, le roi Henri III et puis le roi Henri IV vont dans le sens du renforcement de l'autorité royale et dans le sens de la disparition des privilèges locaux. Ça, c'est vrai. Hein. Ce qui triomphe, c'est l'État moderne. Hein. C'est un triomphe de l'État moderne qui se place comme transcendant par rapport à toutes les différences, y compris les différences religieuses. Hein. Les vrais vainqueurs de l'indépendance, effectivement, ne sont pas les protestants, ne sont pas non plus les catholiques zélés, hein. Ce sont ce qu'on appelle les politiques. Hein. D'un terme qui est considéré comme un terme injurieux, c'est ceux qui font passer la raison d'État avant la raison d'Église et qui font passer le roi, en quelque sorte, avant le pape. Hein. Musset, sur Musset.
Vous avez peut-être croisé, c'est Victor de la Prade.
Ah oui.
Le cours de l'intérieur, qui a arquebouté sur une fierté aristocratique la légitimisme ultra et en même temps susceptible de tourner au régicide si jamais le roi trahit le président.
Ouais.
Pas sans rappeler ce vieil oubli. Alors, essayez, deux questions.
C'est vrai que Daubigné se rattache à un idéal de. Oui, il faudra peut-être laisser parler les autres aussi, hein, monsieur. Mais je réponds à vos questions, mais. Il faudrait quand même que. Daubigné s'inscrit effectivement dans la défense du droit féodal, enfin des droits des féodaux, effectivement. Et Marc Fumaroli, dans un récit d'histoire littéraire de la France, a bien montré qu'après la mort d'Henri IV, il y a une sorte de réaction, hein, contre l'autoritarisme du régime et l'affirmation d'un premier absolutisme, si vous voulez. Il y a une réaction nobiliaire, et Daubigné s'inscrit tout à fait dans cette réaction nobiliaire, qui a des bases tantôt catholiques et tantôt protestantes, mais aux deux extrêmes, en quelque sorte.
Et donc, les deux dernières questions seraient, la première, vous avez dit que l'histoire se répétait, est-ce qu'elle se répète ou est-ce qu'elle se dégrade ?
Les deux. Oui, alors Daubigné dit aussi qu'il a failli servir de maquereau, enfin c'est le mot qu'il emploie, hein, au roi. Hein, son ami Henri de Navarre, qui était un grand consommateur de chair fraîche, comme vous savez, l'avait chargé de lui trouver des jeunes filles pour ses plaisirs. Et Daubigné s'est refusé à faire le maquereau. Hein, voilà. Mais en revanche, d'autres gentilshommes étaient moins sourcilleux que lui, se sont prêtés de bonne grâce à ses fonctions qui n'étaient pas très honorables. Quoi, voilà. Et effectivement, il y a ça, Daubigné le raconte, hein, dans sa vie à ses enfants.
Hein, voilà. Et la
ces gentilshommes. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si je raisonne en termes de littérature, je dirais que c'est d'Aubigné, parce que c'est quand même un très grand poète, un immense poète. Mais évidemment, on peut préférer quelqu'un de plus mesuré comme Lanoux, hein, bien sûr. Qui avait quand même perdu un bras en se battant, comme vous savez. Un bras de fer. C'est vrai que d'Aubigné, il est difficile à accepter peut-être aujourd'hui. Hein. On verrait plutôt en lui un fanatique, hein, c'est un extrémiste. Mais en même temps, il y a une vérité profonde dans son message, il y a une force, une énergie. Et puis je trouve qu'il y a quand même la leçon que j'ai essayé de qui est une leçon évidemment discutable, hein, la leçon qu'il donne, c'est que finalement, c'est quand elle est menacée que la minorité conserve le sens de son combat. Quoi, hein. C'est un message un petit peu difficile à avaler, peut-être. Hein, mais... Ah, bah, alors, voilà. Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, c'est l'autre face du personnage. Hein. Je l'ai décrit un peu en martyr, en témoin inspiré, qui est prêt à donner sa vie à partir en fumée sur le bûcher. Mais, à part ça, c'est un homme d'affaires. Hein, voilà. Donc, il avait un commerce très lucratif. Bon, c'était un gentilhomme, donc il ne cultivait pas la terre, mais il avait des terres, et il s'était fait possesseur de Maizet, qui est une ancienne abbaye où Rabelais avait été moine, d'ailleurs, hein, l'histoire littéraire. Je vous conseille, d'ailleurs, si vous allez en Vendée du Sud, hein, visiter les ruines de l'abbaye de Maizet, qui sont très très belles. C'est au milieu du marais Poitevin, et c'est une île quasiment, et c'est là que d'Aubigné s'était réfugié. Et alors, il y avait un trafic très, très lucratif, c'était le trafic du sel. Qui contrôlait un peu le trafic du sel sur la région. Il est marais salant pas très loin. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une fortune et qui s'arrangeait très bien. Et quand il quitte la France, il est obligé de quitter la France, chassé, donc, parce qu'il a sa tête est mise à prix, parce qu'il il s'est mis parmi les rebelles, hein, il a été vaincu au Pont de Cé. Il se réfugie à Genève. Il part quand même avec des provisions, hein, avec une part de sa fortune et même de sa bibliothèque. Donc, et à Genève, il va se remarier et il va finir sa vie très... très confortablement. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a le sens aussi de la réussite matérielle terrestre, hein, à part ça. Hein. C'est l'autre aspect du personnage. Bon, je ne sais pas si on peut chiffrer sa fortune, mais il avait quand même un hôtel particulier donc, dans le Vieux-Genève. Le Vieux-Genève, c'est pas grand, hein, la ville de Genève. Donc, et puis il avait une maison de campagne. Il avait une maison de campagne dans Genevois. Et il avait deux bibliothèques très riches et des livres très coûteux. Et puis aussi, bon, des meubles, des œuvres d'art. Bon, hein, il a fini finalement dans un confort. Il n'a pas fini en martyr. Hein, voilà. Il concilie à la fois le service de Dieu et puis la gestion de ses affaires. Hein, ce qui peut être aussi un principe protestant. Hein, mais cela ne veut pas dire qu'il faille mettre en doute ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Hein. Je pense que quand il l'écrit, il le pense. Hein. Et puis on a vu aussi des riches bourgeois protestants partir en fumée, c'est arrivé. Hein, quand même. Il y a eu vraiment... Les vies pouvaient basculer très vite de la réussite à la tragédie. Hein. C'est l'histoire de Coligny, par exemple, mais il y en a bien d'autres. Hein. Pas d'autres... Oui, monsieur. Oui, vous...
Pourquoi Chabrol a fait un livre, Le Bouc du désert?
Oui. Et c'est le bouc émissaire qu'on charge de tous les péchés. Voilà, on le jette dans le désert. Il est chargé de tous les péchés de la ville et on met le bouc dehors. Quoi.
Quel est le rapprochement avec
lui, ah ben c'est ça, c'est que c'est l'empêcheur de tourner en rond. Dans les assemblées où on dit qu'il faut faire la paix avec le roi, avec les catholiques, lui, c'est celui qui dit non. Hein. Et donc, on le charge de tous les méfaits, de tous les maux. Quoi. Et du coup, il se retire lui-même dans le désert, hein, fièrement. Et le livre est signé au désert, il est imprimé au désert. Le désert, en même temps, c'est un symbole extraordinaire dans l'histoire du peuple juif, hein, bien sûr. C'est au désert qu'a eu lieu la révélation. Donc vous voyez, l'image est très riche. C'est à la fois l'animal qui sert de bouc émissaire, hein, c'est l'origine du mot bouc émissaire, hein, et en même temps, c'est celui qui abandonne la société de ses semblables pour vivre au désert dans une sorte d'immédiateté à Dieu. Quoi. Il y a tout un symbolisme du désert dans les tragiques, oui.
Quel était son comportement du point de vue militaire? Par exemple, quand
il en parle, il a conquis l'île de Ré, par exemple. Il s'est emparé de l'île de Ré. Il était gouverneur quelques temps, quelques mois de l'île de Ré avant d'être fait prisonnier, parce que c'est une fois il gagnait, une fois il perdait. Il demandait des rançons, hein, comme tout le monde. Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il était particulièrement cruel. On dit en général, ça c'est dit par des catholiques, c'est dit aussi par Lanoux. Lanoux était quelqu'un qui était réputé pour justement sa clémence. Enfin, hein. On dit en général, les adversaires catholiques des protestants disent en général que au début tout au moins, les protestants respectaient certaines règles de la guerre que ne respectaient pas toujours les catholiques. Mais on dit aussi que les guerres s'éternisant, le code de l'honneur s'est complètement dégradé. Et très vite, on est arrivé. Il y a eu le baron des Adrets, par exemple, hein, voilà, qui s'est emparé de Lyon et qui a commis la sauterie de Montbrison. Là, hein, voilà, bon. Je ne crois pas que Daubigné ait commis d'horreurs pareilles, ça m'étonnerait. Parce qu'il y a quand même. J'ai parlé évidemment de sa fascination pour le martyr et pour le sang, mais il y a quand même une compassion. Il y a une compassion pour le peuple. Si vous lisez Les Misères, hein, le premier livre des tragiques, je n'ai pas insisté aujourd'hui sur cet aspect-là, j'ai insisté sur le martyr. Si vous lisez Misère, il y a une réelle compassion pour la misère du peuple, hein, qui est la première victime des guerres de religion. Et le peuple, finalement, il n'est ni catholique ni protestant. Hein, il est plutôt catholique si on veut, mais il a sa religion traditionnelle, sa religion ancestrale. Il se moque des intérêts en jeu. Mais il subit le plus grand poids de la guerre, parce que les mercenaires, hein, les bandes de soldats de pillards, hein, s'attaquent d'abord aux campagnes, puisque les villes sont protégées par leurs remparts. Alors il y a des sièges dramatiques, c'est vrai, mais les campagnes sont sans cesse exposées aux pillages, aux tueries, aux exécutions, et puis à l'incendie des moissons. Hein. On fait la guerre par tous les moyens. Et là, il y a des pages, on pourrait citer, hein, vers de Misère, où là, il y a une pitié de Daubigné. Ce n'est pas quelqu'un d'insensible. Hein. Là, j'ai montré surtout l'aspect, cette pose tragique, cette pose du martyr, mais il y a aussi cette attention. Voilà, hein, alors c'est la nature qui parle. Hein. Ce ne sont pas les grands, mais les simples paysans que la terre connaît pour enfants complaisants. La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Il ne sort des tyrans et de leurs mains impures qu'ordures ni que sang. Les aimés laboureurs, ouvrage son beau sein de si belles couleurs, font courir les ruisseaux dedans les vers de près, par les sauvages fleurs en émail diaprés, ou par ordre et compas, les jardins azurés montrent au ciel riant leurs carreaux mesurés. Les parterres tondus, les droites allées des droituriers romains aux cordeaux sont réglés. Ils sont peintres, brodeurs, et puis leurs grands tapis noircissent de raisins et jaunissent d'épis. Les ombreuses forêts leur demeurent plus franches, éventent leurs sueurs et les couvrent de branches. La terre semble donc pleurante de soucis, consoler les petits en leur disant ainsi « Enfants de ma douleur, du haut ciel lire ému, pour me vouloir tuer, premièrement vous tue, vous languissez, et l'or le plus doux de mon bien va saoulant de plaisir ceux qui ne valent rien. Or, attendant le temps que le ciel se retire, ou que le Dieu du ciel détourne ailleurs son ire, pour vous faire goûter de ses douceurs après, cachez-vous sous ma robe en mes noires forêts. Et au fond du malheur, que chacun de vous entre, par deux fois mes enfants dans l'obscur de mon ventre, les fainéants ingrats font brûler vos labeurs, vos seins sentent la faim et vos fronts les sueurs, je mets de la douceur aux amères racines, car elles vous seront viande et médecine. Et je retirerai mes bénédictions de ceux qui vont suçant le sang des nations, tout pour eux soit amer, qu'ils sortent exécrables du lit sans reposer, alouvis de leur table. Ah, vous voyez ici la condamnation des tyrans, de ceux qui font la guerre, des fauteurs de guerre, et au contraire, bénédiction à l'égard des paysans, la nature, donc les reprenant en son sein, comme une mère qui reprendrait l'enfant, hein, pour le protéger de ceux qui le menacent de mort. Oui, oui. Alors, là-dessus, si vous voulez en savoir plus, il y a un texte dans lequel Daubigné se met en scène, c'est les aventures du baron de Fénès. C'est un texte satirique, en quelque sorte, mais qui comprend en même temps un éloge de la vie rustique. Hein. Il y a tout un mouvement pas seulement chez les protestants, chez certains catholiques, mais notamment chez les nobles protestants, il y a tout un mouvement de retour à la terre, hein, illustré notamment par le plus connu, hein, de ces gentilshommes protestants, c'est Olivier de Serres. Hein. Olivier de Serres, qui, vous savez, a géré son domaine, a écrit le théâtre d'agriculture, qui est bien connu, qui est un modèle d'agronomie et qui est aussi un modèle d'économie domestique. Olivier de Serres, donc gentilhomme, c'est quelqu'un de la région, hein, en plus, hein, vous connaissez bien, et Olivier de Serres, donc, représente justement ces gentilshommes qui font de la vie sur leur terre, au milieu de leurs paysans dont ils s'occupent, le modèle, finalement, que doit suivre un bon prince, hein, loin de la cour. Et chez Daubigny, on a sans cesse l'antithèse entre la cour qui est mauvaise, où règne le vice, hein, c'est notamment la cour d'Henri III, qui est un roi inverti, un roi qui danse déguisé en femme, et à l'opposé de cette cour corrompue des derniers Valois, qu'il noircit évidemment à plaisir, eh bien, il y a le caractère saint, le caractère originel, et conforme d'ailleurs à la vocation d'Adam, hein, le premier jardinier, il y a la vocation du gentilhomme qui vit sur ces terres et qui gère son domaine. Quoi. Ça, cette vision-là, elle est chez Daubigny, indiscutablement. On la trouve chez Olivier de Serres, on la trouve également chez Noël Dufay, qui est lui aussi un protestant, un noble de robe, un magistrat de Rennes, hein, qui écrit les propos rustiques, notamment. Oui, on peut dire que... Oh, oui, si on veut, oui. Oui, enfin, c'est en même temps, c'est une tradition qui est ancienne, qui vient d'Italie. Hein. On pourrait en trouver même l'origine dans l'Antiquité, hein, dans les épîtres d'Horace, par exemple, ou dans certains textes de Cicéron, hein, dans les lettres de Cicéron, hein, le politique qui fuit la cour, ou qui fuit le Sénat, qui fuit Rome, hein, pour trouver à la campagne, dans sa villa, hein, un mode de vie plus conforme à la nature, et on peut exercer la sagesse à ce moment-là. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une actualité, hein, de cette image... Oui, des plaisirs de la vie rustique, hein, de cet idéal rustique, finalement, à la fin du XVIe siècle. Parce qu'il faut dire aussi que les campagnes ont été dévastées, et dans beaucoup de régions, les cultures ont été abandonnées à cause des troubles, hein, à cause des guerres continuelles, du passage des armées. Donc il s'agit de remettre en valeur, hein, la terre, et c'est ce que va faire Sully aussi, hein, labourage et pâturage, bon, hein, vous connaissez, ce sont les deux mamelles de la France, vous connaissez évidemment. Tout ça s'inscrit dans le même mouvement, hein. Mais je vous remercie de m'avoir ramené vers un Daubigny plus pacifique, hein, parce que c'est vrai que j'ai montré surtout l'homme de guerre, hein, qu'il a été aussi, mais il n'a pas fait toute sa vie la guerre. Hein, entre... Oui, voilà, hein, il dit, David est un exemple que qui fait la guerre ne construit pas le temple. Hein. Si on veut construire le temple, c'est Salomon qui a construit le temple, c'est pas David. Hein. David a fait la guerre toute sa vie, et du coup, il n'a pas eu le temps de construire le temple. Hein. Donc c'est son fils qui l'a fait. Hein. Alors, on pourrait aussi parler du fils de Daubigny, mais c'est une autre histoire, mais bon... Fils d'Aubigny l'ont trahi, enfin son fils Constant, le mal nommé, s'est converti au catholicisme et il a donné le jour, vous savez, la fameuse Madame de Maintenon, hein, voilà, qui était la grande persécutrice des protestants, hein, qui poussait le roi Louis XIV à révoquer les dents. C'est l'histoire, il y a des ironies dans l'histoire, il y a une ironie extraordinaire parce que, hein, la petite fille de Daubigny a été celle qui a révoqué les dents. Alors son grand-père en voulait aussi à l'édit de Nantes, hein, comme je l'ai dit, hein, mais pas pour les mêmes raisons. C'est une histoire assez extraordinaire. Hein. Si on fait l'histoire de la famille sur trois générations, c'est hallucinant.